France Culture.
Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi?
Bonjour, vous écoutez France Culture, Jean-Luc Gadreau avec vous jusqu'à 9h pour Soleil, le rendez-vous protestant proposé par la Fédération protestante de France. Dernière émission de l'année avec deux invités qui ont plusieurs points communs. Alors le premier, c'est d'être jeunes, tout d'abord. Elles sont toutes deux nées en 1999 et elles sont autrices de deux livres, donc deux premiers romans, « Ceux qui appartiennent au jour » et « Clandestine », deux livres qui fleurent bon le protestantisme. Bonjour Emma Daude von Trotzweig.
Bonjour.
Le défi de la prononciation est réussi?
Est relevé, complètement, bravo.
Merci Emma. Bonjour Élise von Esch.
Bonjour.
Là aussi, je prononce bien.
Très bien.
Bon, tout va bien, donc on peut continuer. Avec un autre point commun pour toutes les deux, c'est un pays européen, alors pas le même, mais proche de la France, où le protestantisme d'ailleurs a des racines fortes. Les Pays-Bas pour vous, Emma?
Oui,
Et puis la Suisse pour Élise?
Oui, tout à fait.
Emma, vous naissez donc dans une famille d'origine néerlandaise, mais vous grandissez en Alsace. Après des études de lettres et de philosophie, vous vous orientez vers le théâtre, travaillant comme assistante à la mise en scène. Et puis depuis 2024, vous êtes artiste associé à la compagnie Le Gourbi Bleu.
Oui, avec grand bonheur.
Ceux qui appartiennent au jour est publié aux éditions de Minuit. Il y aura bientôt un an et il a été récompensé par le prix de l'Académie Rhénane, le prix du Festival Protestant du Livre, le prix du Métro Goncourt, le prix Françoise Sagan ainsi que le prix Robert Walser. Magnifique.
Ah, je suis très contente.
Ah oui, oui, de bien jolies récompenses. Et puis vous, Élise, de votre côté, vous avez étudié la littérature française à l'Université de Genève.
Oui, absolument.
Très jeune, vous avez commencé très très jeune. Dès 13 ans, vous commencez donc à écrire et à vous intéresser à la littérature. Et puis sort ce premier roman, Clandestine. Vous n'aviez encore que 20 ans.
Oui, exact. Bah, j'ai écrit à 18 ans et il est sorti
deux ans plus tard, ouais.
Juste après mes 20 ans.
Voilà, c'est ça, c'était le cadeau d'anniversaire.
Oui.
Coédité par Olivetan et Lopec. Et vous aussi, vous recevez un joli prix, le prix de théologie 2018, décerné par les universités de Genève et de Lausanne. Puisque vous êtes toutes les deux invitées ensemble et que j'évoquais des points communs, peut-être autre chose encore, c'est le fait de raconter l'histoire. Une histoire protestante au sens large pour Élise von Esch, sur fond de résistance avec les camisards au XVIIIe siècle et des justes pendant la Seconde Guerre mondiale. On reviendra bien sûr sur tout ça. Et puis au sens plus de l'intime, de la famille, avec des enjeux de transmission, de mémoire, de ministère pour vous, Emma Daude von Trotzweig. Pourquoi si jeune, la question s'adresse à vous deux, pourquoi si jeune se plonger dans l'écriture pour raconter l'histoire et choisir en plus de parler de foi protestante? Élise?
Alors, moi, c'est vraiment ce qui a motivé mes premiers écrits. Dès le début, j'étais portée par transmettre une part de ma foi dans mes textes. Donc, il y avait toujours des personnages qui étaient croyants, protestants. Et c'est pour ça qu'en fait, ce roman, qui était dans la lignée de cet élan, eh ben, il portait là-dessus. Et encore plus précisément parce que je voulais un roman historique. Et pour mêler la foi et l'histoire, eh ben, connu avec des guerres de religion. Et bah aussi ensuite la résistance sous l'occupation par des résistants protestants.
Oui, ça c'est le côté original. Il y a deux temporalités dans votre livre.
Oui, absolument. Il y a deux récits en fait qui sont emmêlés. Un qui porte sur la guerre des camisards et l'autre sur la résistance sous l'occupation.
Et vous, Emma, donc même question?
Oui, alors pour moi, la culture protestante, parce que chez moi, c'est plus quelque chose de culturel. Je ne suis pas croyante ni pratiquante, mais j'ai une maman qui est pasteur et donc j'ai grandi dans un presbytère. Et la culture protestante m'intéressait comme motif littéraire, parce que c'est un motif littéraire qu'on ne retrouve pas du tout en littérature en France. Et que la religion, comme voilà, étymologiquement, ça veut dire reliquaré, relié quand même. Et ça m'intéressait d'en faire quelque chose et de parler de la transmission, de ce qui nous relie et de comment est-ce qu'on se raconte des histoires.
Alors quand on lit votre livre, on a l'impression de lire presque une biographie autour d'une courte période, mais en fait, il y a une grande part fictionnelle dedans.
Oui, tout à fait. C'est vraiment un roman et j'y tiens à ça. Bien sûr, il y a beaucoup de moi et je pense que quand on écrit à partir de soi et de ses questions intranquilles et de ce qui nous traverse. Mais après vient la transformation et puis l'ajout de personnages de fiction. Et puis on transporte tout le monde réel dans un autre monde où, où se posent des questions d'écriture et de regard et de voix.
Alors Emma, dans cette histoire, c'est la vie donc d'une famille pastorale. Votre maman est vraiment pasteur d'ailleurs.
Oui, c'est ça.
Se tisse là le récit de journées où viennent s'inscrire plusieurs thématiques. Le souvenir, la transmission, il y a une forme d'héritage ministériel qui est un enjeu de l'histoire aussi, avec un frère qui s'appelle Nicolas dans l'histoire. Et une question sous-jacente, qu'est-ce qui nous lie, avec aussi le facteur perte de mémoire, perte d'énergie, la maladie, le burn-out?
Oui, complètement. Je crois que c'est une histoire qui parle de transmission, et puis la foi intervient dans le sens de en quoi est-ce qu'on peut croire encore aujourd'hui et comment est-ce qu'on y croit collectivement. Et c'est cette question-là que soulèvent les personnages du texte.
Avec une écriture très particulière, où l'émotionnel est très présent, le ressenti, des phrases courtes, de très très courts chapitres. Et comme ça, on avance et on est captivé par cette manière d'écrire, en fait. Il y a quelque chose qui se passe là pour le lecteur.
Oui, ben je crois que quand j'écris, je me pose toujours, et encore plus aujourd'hui avec tout ce qui se passe politiquement et qui m'inquiète beaucoup, je me pose toujours la question de la responsabilité. Et quand on écrit, on a la responsabilité de la phrase, du mot, du regard, de la relation entre les personnages. Et c'est pour ça que c'est quelque chose de très sensoriel là qui se passe.
Trouver le bon mot.
Exactement, trouver le mot juste, trouver la respiration et rendre la lecture active aussi.
Élise, vous, c'est un roman aussi fictionnel où vous appuyez sur des personnages un peu typiques de ces deux périodes de l'histoire, c'est ça?
Oui, on peut le dire comme ça.
Et puis, un croisement de destin de deux femmes. Alors, on a Louise, la bergère des Cévennes, Hélène, la secrétaire lyonnaise. Et à 3 siècles d'intervalle, elles vont toutes deux s'engager pour leurs convictions au péril de leur vie. Louise rejoint le rang des Camisards, donc, qui défend les soldats du roi au début du 18e. Et Hélène prend le maquis pendant la Deuxième Guerre mondiale, prêtant main forte aux résistants. Je vous propose d'écouter un son tout de suite et on va... Enfin voilà, c'est une surprise et vous réagirez après.
Je pense que le mot résistance est un mot précieux qui signifie que on ne peut pas accepter le monde tel qu'il est. Il y a toujours quelque chose d'inacceptable et qui mérite qu'on se manifeste, qu'on s'indigne.
Indignez-vous, la voix du regretté Stéphane Hessel, résistance, indignation, ça résume assez bien vos personnages, Élise.
Oui, alors là, c'est bien choisi, effectivement. C'est vraiment l'indignation qui les pousse à agir et à s'engager, parce que c'est quand même un vrai sacrifice que de faire ça, de se lancer là-dedans, c'est prendre beaucoup de risques. Mais si ces deux personnages sont prêts à les prendre, c'est qu'il y a vraiment... il y a un besoin d'engagement, il y a un besoin de résistance qui naît de l'indignation.
Jamais se soumettre à l'arbitraire, en fait, capituler devant l'adversité, choisir la sécurité quitte à renoncer à ses convictions. C'est aussi votre conviction de croyante, de chrétienne, de protestante?
Oui, je pense qu'on peut le dire comme ça. C'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui restent passives face à des situations qui devraient susciter l'indignation. Et en fait, ça conforte ces situations, ça leur permet de fleurir encore plus. Et il faut savoir dire stop quand on peut pas l'accepter. Donc oui, je pense que ça reflète ma pensée, même si moi je l'ai transposée dans un roman historique, dans l'histoire.
Vos deux héroïnes sont pétries de foi, vraiment toutes les deux, mais différemment, avec ces deux périodes historiques aussi qui changent la donne. Louise, la Camisarde, place toute sa confiance en Dieu, on le sent dans la manière de raconter cette histoire. Pour Hélène, la résistante, si elle ne se bat pas pour sa foi, elle reste cette foi une sorte de moteur d'essence permanente.
Oui, alors c'est vrai que Louise, c'est beaucoup plus clair quand je j'écris, parce que vu qu'elle est directement touchée par les persécutions à cause de sa foi, ça la questionne aussi. Est-ce qu'on peut prendre les armes en étant un croyant? Est-ce qu'on peut tuer pour sauver? C'est tout le dilemme qui est dedans. Hélène, elle est un peu moins représentative de ça. Elle, ce qui compte, c'est se battre, c'est résister. Elle est moins dans la réflexion, mais c'est un peu contrebalancé avec ses parents qui sont aussi dans le livre et qui, eux, agissent de façon plus... pas par les armes, mais cachent des enfants. Et c'est aussi une manière de résister. Et eux sont... On voit davantage qu'ils sont poussés par la religion. Mais Hélène, elle a été élevée par ses parents, donc forcément, elle porte ça aussi.
Mmh. Emma, dans Ceux qui appartiennent au jour, on ne peut pas parler véritablement de perte de foi, mais de doute, certainement. Ça, c'est vraiment un élément présent, d'incertitude. Il y a tout ce questionnement face à l'héritage qui s'impose à ce frère Nicolas. Charge pastorale, appel, entre guillemets, et avec un gros point d'interrogation pour lui. Un héritage, ça s'impose à nous, mais quelle responsabilité on a aussi avec et pour en faire quoi? Alors moi, ça m'a rappelé aussi des textes de l'Évangile, notamment la parabole du fils prodigue, la parabole des talents, des choses comme ça. Comment vous pourriez nous en dire quelques mots de tout ça?
Bravo, parce que la parabole du fils prodigue, c'est vraiment un motif littéraire du texte. Ouais. Et parce que j'ai relu un peu des récits bibliques et j'ai essayé de les faire infuser dans l'histoire de manière complètement indirecte. Mais la troisième partie, c'est effectivement tout à fait le fils prodigue.
Ouais.
Et pour la question du doute, je pense que c'est une question déjà très protestante, en fait.
Ouais,
de remettre en question et de douter. Et la question de la responsabilité, c'est une question très protestante aussi. Et très actuelle. Et c'était très beau cet extrait sur la résistance, parce que je pense on est à fond dedans là, dans cette période de doute que symbolise Nicolas et dans qu'est-ce qu'on fait de l'héritage qu'on nous transmet et comment est-ce qu'on agit du haut de nos 25 ans là et comment est-ce qu'on agit dans la transmission non seulement familiale mais dans la transmission du monde aussi et comment est-ce qu'on prend nos responsabilités face à ça et comment est-ce qu'à un moment on dit stop et comment est-ce qu'on peut résister et donc toutes ces questions-là sont incarnées par le personnage de Nicolas.
Alors en tant qu'autrice et vous avez déjà évoqué pour vous l'importance des mots dans le choix des mots, je voulais vous diriger justement sur cette question des mots, des traductions dans votre histoire, deux langues qui se côtoient, se marient avec deux cultures également, français et néerlandais donc, et vous en jouez d'une certaine façon, notamment par des apports qui viennent comme des respirations dans votre récit, comme peut-être parfois aussi des éclaircissements. Alors moi je pensais aux graines qui tracent un chemin façon petit poussé, et je vais donner quelques exemples, celles qui m'ont peut-être le plus marqué. Alors vous écrivez, là je vous lis, en français ils perdent la tête, en néerlandais ils perdent le chemin. Le français dit « un pense-bête », le néerlandais dit « un appui-mémoire ». Et à chaque fois, vous le mettez aussi écrit en néerlandais. Mm-hmm. Celle-là, j'aime énormément, forcément. Le français dit « qu'un ange passe », le néerlandais dit « qu'un pasteur se promène ». C'est joli, ça. Et puis, une dernière, logique, en français, « ils ne tiennent qu'à un fil », et en néerlandais,
« ils appartiennent au jour ».
Voilà.
« Het zijn mensen van de dag ».
Et on le comprend, c'est le titre du livre.
Oui, exactement.
Alors, peut-être réagir sur cette question des mots, de cette double culture, de ces deux langues, la façon de dire autrement les choses, et des deux côtés, on comprend ce qui est l'enjeu derrière.
Oui, je pense que les deux langues, c'est vraiment partie de ma position de bilingue. Pour le coup, j'ai deux parents néerlandais et j'habite en France depuis que j'ai 4 ans. Donc, avec ça vient un questionnement qui est quelle langue est à moi et avec laquelle j'écris. Et j'avais envie d'écrire cette famille avec les deux et de ne pas renier une langue. Là aussi, on revient sur la question de la responsabilité quelque part. C'est quoi la responsabilité d'un bilinguisme, quoi? Et comment la littérature peut faire se conjuguer les deux langues. Et puis, ce qui était très intéressant dans un texte qui parlait de trous de mémoire, de perte de mémoire, de sens, c'est de faire vivre au lecteur et à la lectrice l'expérience sensorielle, quelque part,
c'est ça.
Des trous dans le texte. Et de dire, en fait, quand il y a une autre langue, on peut être exclu, il y a des secrets auxquels on n'aura jamais accès. Et la traduction, c'est passionnant, parce qu'à la fois, ça dévoile quelque chose du sens, et puis c'est un travail qui n'est jamais fini. Il y a une espèce de substance du texte qui ne sera jamais atteint.
En tout cas, c'est très intéressant et j'aime beaucoup ces petits apports réguliers. Encore autre chose, page 72, quelques mots, comme une très courte lettre qui vient d'un seul coup. « Cher Nicolas, je te souhaite Dieu, je t'embrasse, ton père. » Je te souhaite Dieu. Comment c'est arrivé dans votre main là quand vous l'avez écrit?
Comment c'est arrivé, je ne sais pas, il y a des choses qui arrivent comme ça qu'on ne contrôle pas, mais je crois que ce que ça veut dire, et ce que Dieu représente là dans le texte pour les personnages, c'est quelque chose en quoi on peut croire et qui guide et qui donne de la force et qui fait tenir debout. Donc en fait, souhaiter Dieu à quelqu'un, c'est lui souhaiter du souffle.
Joli, je pense que ça éveille à beaucoup de choses. Élise, vous avez, vous, choisi d'ouvrir Clandestine avec deux citations. La première est biblique, Évangile selon Luc, chapitre 19, verset 40. « Si eux se taisent, les pierres crieront ».
Oui, tout à fait.
Et puis la seconde est de Simone Veil. « Les justes de France pensaient avoir simplement traversé l'histoire, et en réalité, ils l'ont écrite ». Comment s'est fait ce choix? Pourquoi?
Alors, déjà, je pense que vous avez remarqué que dans mon livre, il y a pas mal de citations et oui, de versets bibliques, parce que c'était quelque chose que je fais plus, mais que j'ai fait à l'époque et que j'aimais bien. Je trouvais que ça faisait une belle résonance avec le texte, avec des auteurs qui avaient écrit peut-être la même chose, où ça faisait un écho intéressant. Mmh. Et pareil avec la Bible, surtout que la Bible, à l'époque des Camisards, elle était pas, on pouvait pas la lire
mais
en
non.
français. Et j'ai choisi parmi les citation biblique qui me plaisait le plus. Je trouvais que celle-là, elle résumait peut-être mieux le texte, les deux récits.
Oui.
Si on n'a pas le droit de réagir, ben on réagit quand même. Et les justes, finalement, si j'ai écrit un livre dessus, c'est qu'aussi ils ont fait partie de l'histoire et ça me semblait évident. Et de le mettre au début, c'était montrer tout l'impact qu'ils ont eu sur l'histoire et pas simplement traverser.
Comment vous avez eu accès à cette connaissance de l'histoire des justes, parce que vous étiez toute jeune encore?
Oh, ça, je me suis intéressée assez tôt à la Deuxième Guerre mondiale, parce ouais, que j'avais lu le journal d'Anne Frank à 13 ans, qui m'a donné envie d'écrire et qui m'a fait m'intéresser à l'histoire. Et après, jusqu'à mes 18 ans, j'ai pu me renseigner là-dessus.
Et puis le côté protestant, parce que beaucoup de justes étaient protestants.
Oui, ça justement, ça c'est... Ça se coordonnait bien parce que je voulais donc un héritage protestant de la guerre des Cévennes, mais du coup ça pouvait pas être des personnages juifs par exemple,
ouais,
parce que j'aurais pu faire le parallèle avec
aussi,
ça. Ouais. Mais non, là je voulais des
rester dans le protestantisme.
Voilà, puis en plus c'est le même lieu, c'est les Cévennes, ouais, donc c'est ouais, le protestantisme.
Oui, c'est ça. C'est les choses se croisent aussi localement dans le.
Oui, c'est ça. Et je pense que le lieu c'était aussi important que ça ouais, soit le point commun.
Emma, si l'on peut percevoir une forme d'austérité protestante parfois dans votre récit, en même temps on chante beaucoup chez les Daude von Trotzweig, on danse même, on fait la fête. Alors ça dans la vraie vie, c'est vrai? C'est comme ça aussi?
On danse pas trop, mais on chante pas mal, ouais.
On fait la fête et ça se ressent tout au fil des pages. Et même quand une forme de mort lente vient, de perte, de souffrance, eh bien on ne cède pas, on ne plie pas. Et avec, c'est une grande bouffée d'amour que l'on reçoit comme une forme de résistance de vie.
Oui, ça c'était la grande question de l'écriture. C'était comment est-ce qu'on peut parler d'Alzheimer? Comment est-ce qu'on peut parler de burn-out et de ce monde qui brûle là tout ouais, autour de nous? Et comment est-ce que... Enfin, de quoi est-ce que je suis responsable quand j'écris? Et je crois que là, il y avait la responsabilité de l'espoir, en fait. Je crois que quand on est artiste et quand on écrit, on ne peut pas, on n'a pas le droit de désespérer. Même si aujourd'hui, je pense là aux coupes budgétaires du Pays de la Loire de 73%, et c'est terrible, et on va vers une politique de plus en plus austère, ouais, mais on n'a pas le droit de désespérer. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On danse, on chante, et on met un peu de lumière dans tout ça, et on fait des personnages qui sont dignes et debout.
Alors un exemple, ce vieux spiritual que vous écoutez dans votre livre, en tout cas dans cette version de Louis Armstrong. Let my people go. Now when Israel was in Egypt land, let my people go. Emma, un commentaire sur ce choix de morceau?
J'adore ce morceau et puis il est à la fois très loin de nous et puis très proche d'une manière... il me rappelle beaucoup de souvenirs.
Vous l'écoutiez en vrai dans votre famille?
Oui, je l'ai beaucoup chanté ce
ouais,
morceau.
Ouais, ouais. Alors, ce n'est pas tout à fait une chanson que je retiens pour vous, Élise. On est dans le croisement là de vos deux récits. C'est un paragraphe que vous reprenez scripturairement, des mots tirés d'un poème d'Aragon, d'une beauté absolue, à mon goût en tout cas. On est page 165, vers la fin de votre roman, qui parle de bonheur à souvent les yeux tristes. N'est-ce pas un sanglot que la déconvenue, une corde brisée au doigt du guitariste, et pourtant, je vous dis que le bonheur existe. C'est pas votre génération du tout, pourtant, Élise.
Ah non, mais ça me parle quand même, hein, oui, je pense que c'est l'essentiel.
Alors, c'est un poème, mais qui est aussi devenu une chanson avec la voix de Jean Ferrat. C'est « Que serais-je sans toi ?»
Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre ? Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant ? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre ? Que serais-je sans toi ? Que ce balbutiement, j'ai tout appris de toi sur les choses humaines, et j'ai vu désormais le monde à ta façon.
Eh bien, nous arrivons à la fin de notre entretien, mais j'aimerais vous faire réagir une dernière fois rapidement, parce que j'ai relevé justement votre mot de la fin à toutes les deux, celui qui conclut vos histoires respectives. Élise, c'est un mot, libération.
Oui, je pense que c'était très symbolique de le finir par finir ce livre par ce mot, parce que c'est la fin de la guerre et c'est la libération de ceux qui ont participé, vu qu'ils n'ont pas que traversé, ils ont participé, donc c'est aussi la libération de ces personnes-là qui ont œuvré pour être libérées.
Et vous, Emma, on n'est pas très loin, c'est un sujet et un verbe, la route s'ouvre.
Oui, et eh ben, je crois que j'ai écrit que la route s'ouvre parce que l'avenir n'est pas tout à fait écrit et qu'il n'est pas encore dit que ce soit une mauvaise chose et que la route est toujours ouverte et qu'il faut l'emprunter.
Alors c'est un peu le point commun encore à vous deux. Élise, vous venez d'écrire un nouveau livre, je crois, qui est sorti
oui,
tout récemment là.
Absolument, c'était il y a 2-3 semaines maintenant.
Et qui s'appelle
C'était Les Rivieras. Donc il est tout à fait différent, c'est pas du tout un roman historique, c'est contemporain, ça parle d'une télé-réalité. Donc j'ai voulu faire l'inverse de Clandestine, au lieu de mettre en avant les gens qui font le bien, c'est plutôt des gens qui font le mal. Et ça donne une critique en fait de ces gens-là et de ces programmes qui poussent les gens à agir mal et surtout tout ça à cause de l'argent.
Et vous, Emma, des projets, quelque chose à nous révéler, un livre ?
Oui, alors il y a un spectacle qui est en train de naître et qui va avoir lieu en 2027 avec le Courbis Bleu sur les salles d'attente et les espaces d'attente. Et on se pose la question de qu'est-ce qui se passe quand il ne se passe rien et qu'est-ce qu'on attend de la vie.
Ah, ça, c'est intéressant aussi.
Et c'est un sujet magnifique. Et un
en
deuxième
écriture.
Livre en cours, où je galère à fond en ce moment, mais qui parle de disparition et de comment est-ce qu'on devient ami et comment est-ce que l'amitié fait tenir debout. Aussi.
Eh bien, grand merci à toutes les deux. Ce fut un vrai plaisir de finir l'année avec vous deux, de parler de vos deux magnifiques livres que je recommande à nos auditeurs. Dépêchez-vous à lire et à offrir ceux qui appartiennent toujours aux éditions de Minuit. Et puis Clandestine chez Olivetan. Belle et bonne route pour cette année qui vient à toutes les deux.
Merci. À vous aussi.
Cinquième dimanche du mois et donc dans Solae, l'occasion de retrouver la chronique écolo d'Edouard Van de Venter qui habilement s'est intéressé lui aussi à Élise et Emma. Bonjour Edouard.
Bonjour Jean-Luc. Alors face aux deux écrivaines que vous recevez ce matin, j'avais très envie de récupérer leurs récits pour les rallier à la cause écologique. Je suis très tenté par exemple de reprendre ce beau titre « Ceux qui appartiennent au jour » et de prendre la cause inverse, la cause de tous les animaux nocturnes qui appartiennent eux à la nuit et dont le quotidien est très affecté par la pollution lumineuse. Alors j'avais préparé tout un réquisitoire contre cette pollution massive qui fait disparaître les lucioles, les insectes, qui réduit la pollinisation et qui en plus augmente chaque année. J'aurais pu aussi reprendre le thème de la perte de mémoire des personnages de ce même roman, ceux qui appartiennent au jour, et en profiter pour vulgariser un biais cognitif très vicieux lorsque l'on aborde les enjeux de biodiversité. En fait, chaque génération suppose inconsciemment que la biodiversité qu'elle observe est la norme. Pourtant, le nombre d'espèces et de populations diminue, ce qui fait que chaque génération s'habitue en réalité à une biodiversité toujours moindre, et cela masque grandement les destructions en cours. Mais en fait, je réalise que bon, tous ces discours pleins de chiffres et de raisonnements, d'avertissements, prêchent surtout des convertis et font de l'écologie une cause parmi d'autres, avec son jargon, sa morale et ses prosélytes, et j'ai vraiment pas envie d'en devenir un. Pourtant, nous sommes bien au cœur d'un effondrement du vivant, personne ne peut le nier. Et à l'aube de perspectives dramatiques, à l'aube d'une nouvelle année aussi, je crois que le moment est malvenu pour jouer les maîtres d'école ou les cyniques, mais que l'heure est plutôt à puiser encore et toujours dans notre espérance chrétienne, puiser dans cette parole faite chair qu'on a célébrée il y a quelques jours, puiser dans cette source intarissable, comme l'ont fait eh bien, Louise, la bergère des Cévennes, et Hélène, la secrétaire de Lyon, les personnages du roman Clandestine, dans des époques où tout espoir humain était trompeur. Il me semble que nous nous trouvons, comme elles, dans une époque de grands écroulements humains, pour reprendre les mots d'Antoinette Butte, fondatrice de la communauté de Pomérol. Mais l'histoire a montré, continue Antoinette, que ces époques sont l'heure de Dieu. Et à l'heure de Dieu, eh bien on se sent bien petit. Petit comme peut-être des petites graines, des petites semences à planter dans ce désordre du monde. Les yeux tournés vers un monde nouveau, ressaisi par Dieu, et dans l'attente de son royaume.
L'heure de Dieu, joliment dit. Merci Édouard Van Deventer pour ces bonnes réflexions. Et puis avant de nous séparer, quelques recommandations de livres de plusieurs éditeurs protestants, avec de la beauté aux éditions La Cause, Écho du silence, où l'on découvrira très beaux poèmes du pasteur Michel Bloch, que j'avais reçu dans Solae il y a quelques temps, avec des illustrations de Ai Jin Yoon et une conception graphique de Sylvia de Carvalho. Un livre qui ouvre une collection, une très belle collection, C'est là, pour proposer un parcours spirituel qui prend le temps de faire une pause, prenant en compte la puissance des mots et l'évocation des illustrations nées de la rencontre d'un auteur et d'un illustrateur. Aux éditions Empreintes Temps Présent, Pluralité religieuse et vérité révélée, un dialogue est-il possible, écrit par le théologien et journaliste Jean-Paul Barcon. Et puis enfin, édité par Glénat, la revue L'Alpe, qui pour son numéro 92 prend le sujet du protestantisme, un très beau numéro disponible en kiosque, en librairie ou sur internet. Et pour finir, comment ne pas évoquer cette œuvre magnifique dans laquelle interviennent deux artistes protestantes, membres du trio Georges Sand, Annelise Castaldi et Virginie Buscaille. Un livre CD intitulé « Le voyage imaginaire de Mozart au Japon », une forme d'uchronie qui tente de restituer ce qu'auraient pu être les sentiments de Mozart à la rencontre de cette culture si différente sous la forme de lettres fictives. C'est un livret avec un CD et on se quitte avec un extrait de Don Giovanni, une sérénade pour trio à cordes et couteaux, qui sera le dernier morceau de cette émission, mais aussi le dernier de cette année 2024 dans Solae. C'était Solae, le rendez-vous protestant sur France Culture proposé par la Fédération Protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Thomas Jost et avec Tahar Bouklifa à la prise de son. Cette émission est à réécouter cette semaine sur le site protestant@pluriel.org et à tout moment sur le site de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. Sur France 2, de 10h à 11h, c'est le magazine œcuménique proposé par Présence Protestante et le Jour du Seigneur. Une très belle émission présentée par Christelle Ploquin qui vous proposera de partir sur les traces de Jésus à Nice. Et dans quelques instants, à 9h sur Culture, vos informations suivies de Talmudique, présentées par Marc-Alain Wacknin. Moi, je vous donne rendez-vous pour ma part, donc l'année prochaine, dans une semaine tout pile, c'est pas loin, avec la première d'une série de 4 émissions qui viendront chaque premier dimanche du mois de janvier à avril avec le pasteur Pierre Magne de la Croix, pour parler ensemble d'un personnage de la Bible, haut en couleur et très contemporain à la fois, l'apôtre Paul. Au revoir donc, et très bon dimanche à chacune et chacun.